En avant la musique, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous du dimanche matin. Alors, une nouvelle fois, nous avons invité André Ricroux pour son ouvrage concernant Antoine Bouscatel, le roi des cabaretaires. André, bonjour.
Bonjour, José Dubreuil.
Alors, la dernière fois, nous avons été frustrés, nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Comme d'habitude, l'émission était trop courte pour faire le tour de cet ouvrage conséquent de 450 pages. Alors, nous nous étions promis de nous retrouver, voilà qui est fait. Alors, si vous le voulez bien, nous allons, après avoir écouté l'extrait qui va suivre, parler de l'aspect littéraire de cette publication que nous n'avons pas abordé la dernière fois.
J'ai grandi, comme la plupart des enfants naturels de cette époque, entouré de mots ou de phrases qui ne m'étaient que très rarement adressées, mais entendues avec précision par le truchement d'autres personnes contre lesquelles ces propos avaient ricoché avant de m'atteindre avec plus ou moins de violence. Dans ce contexte, mon univers ne pouvait que se rétrécir et libérer en moi d'immenses territoires que je remplissais avec frénésie pour combler mes inquiétudes et mes angoisses. Il me fallait absolument grandir pour pouvoir partir. Il me fallait grandir pour ne pas me recroqueviller et disparaître de la vie du village. Je suis venu au monde dans un pays où le travail était loi, la seule règle contre laquelle rien ne pouvait résister. Et c'est pour cette raison, et pour faire oublier qu'elle avait un enfant sans père, un bâtard, qu'elle a travaillé. Ma mère a travaillé pour deux afin que je puisse exister un peu et être autorisée à respirer cette terre qui était censée appartenir à tout le monde. Mais ici, l'air ne devait remplir que les poumons qui avaient des bras utiles, des bras nés dans le respect des règles. Comme elle, je suis restée sur les franges de la vie du village et au bord de l'école. Même si tout se passait pour le mieux, j'avais beau être le plus studieux, le plus rapide, le plus et le plus, je restais toujours un modèle invisible, un numéro de fin de liste et un miracle scolaire que l'on déclassait pour de fausses raisons afin de ne pas déranger l'ordre des choses tracées d'avance. L'école me poussa vers la sortie le plus vite qu'elle put. Je fus alors louée par ceux qui me voulaient pas de ma présence à cet endroit, ni dans quelque situation de réussite que ce soit. Ma mère dut accepter, et je devinai que ce même travail l'aiderait à vivre et que la vie serait plus facile pour nous deux. Pauvre monde. La pauvreté est un étau manipulé par des mains indifférentes dont les mâchoires se referment sur les plus démunis. Et c'est ainsi que quelques mois après avoir participé aux lourds travaux d'été, je fus renvoyé auprès de celle qui, seule, une fois de plus, allait devoir se débrouiller. Ma mère chercha, demanda, quémanda, mais personne dans le village de La Selle, car c'est bien de lui dont il est question, ne voulut me louer, ne serait-ce pour garder les oies, afin que je puisse gagner ma nourriture, du moins celle du seul repas de midi. Un village silencieux, un village craintif et fermé sur lui-même, un village qu'aurait dû emporter la Jordane. C'est ce que j'ai longtemps souhaité, lorsque je me trouvais sur les hauteurs qui bordaient la vallée. De là, j'imaginais voir une immense vague d'eau remplir les gorges après que toutes les neiges du cirque de Mandaille eussent fondu en quelques secondes, emportant ainsi le village et ses habitants en épargnant que notre pauvre chaumière et ma mère. Combien de fois j'ai eu cette pensée en moi, et combien de fois dans mes rêves j'ai appelé ce cataclysme pour qu'il rase cette paroisse de la carte de nos montagnes afin que tout soit neuf et que tout soit possible.
Ainsi débute le roman d'un cabaretaire, Antoine Bouscatel. Alors nous sommes en compagnie d'André Ricroux, l'auteur de ce superbe ouvrage. Alors André Ricroux, moi je voulais vous demander pourquoi vous avez fait ce choix de vous glisser dans la peau d'Antoine Bouscatel. Parce que pour réussir cet exercice, en fait, il faut passer beaucoup de temps dans sa tête, en présence de celui qu'on incarne, non ? Il faut bien le connaître.
D'une part, certes, il faut bien le connaître, mais en même temps, Lorsqu'on est sur la fabrication d'un document qui a un caractère ethnographique, c'est toujours, de mon point de vue, plus intéressant et plus facile pour moi-même d'être dans le roman, parce que comme disait Gide, souvent le roman est plus près du document que du document historique. En parlant en son nom, je peux dire des choses qui seraient impossibles de dire si c'est moi qui était tenu de les dire à sa place.
Parce que donc, vous n'auriez pas pu aller si loin, peut-être, c'est ça que vous
voulez dire ? Non, c'est impossible, parce qu'en fait, je peux rentrer dans son intimité, puisque c'est lui qui parle. Oui. Donc, il peut aller jusqu'à tous les propos que peut tenir un individu comme lui. Uh-huh. Alors que si je me dois de parler à sa place avec les éléments objectifs que j'ai, je suis complètement limité.
Alors, c'était qui Antoine Bouscatel ? Parce que tout le monde n'a pas suivi la première invitation qui vous a été faite par France Bleu.
Et Antoine Bouscatel, c'est un individu qui naît en 1867 dans la vallée de la Jordanne.
C'est dans le Cantal,
c'est dans le sud, la partie sud du Cantal. C'est juste au-dessus d'Aurillac. C'est un enfant naturel qui a quand même la chance de vivre dans un univers où, qui sera rétif du fait de son statut, mais en même temps, un univers familial qui va le protéger, un tant soit peu, par rapport à l'époque, j'entends. Qui va travailler comme chaudronnier sur les routes du sud-est et qui, à un moment donné, en âge d'homme, se marie et monte à Paris, entre guillemets, suivant l'expression. Et là, à Paris, il est monté, il était déjà musicien, joueur de cabrette, parce qu'il a été initié durant son enfance.
Oui, il y a eu une très, très belle rencontre, comme c'est souvent le cas quand il était tout jeune.
C'est une rencontre que tout le monde pouvait avoir parce qu'il est...
Ils sont voisins, quoi.
Les gens qui sont autour de lui, comme il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, donc tout le monde chante, danse, raconte, fait de la musique et il a la chance, comme tous les gamins de son âge, d'avoir un environnement de ce type. Mais lui a été fortement sensible à cet environnement et avec des instruments faits, avec des objets de la nature, il commence à jouer de la clarinette populaire, si vous voulez, comme des... Ça ressemble à une flûte, à part que c'est une anche battante, et petit à petit, il va jouer de la cabrette.
Petit à petit, il va avoir un vrai instrument.
Oui, il va avoir un véritable instrument que va lui donner ce fameux voisin qui jouait de la cabrette. Et donc à Paris, il va rencontrer des musiciens qui sont en situation professionnelle, et petit à petit, il va s'insérer dans ce milieu et devenir un des plus grands joueurs de cabrette de son temps.
Bon, on revient tout à l'heure sur sa vie, à ses débuts à Paris et l'évolution de sa trajectoire parisienne. Pour l'instant, on l'écoute dans un titre qui s'intitule « Lo Rapido ».
Thank you. Lignol, parlo, parlo.
Le Rapido avec Antoine Bouscatel à la cabrette et Yos au banjo. André Ricrot, donc notre Bouscatel, il est arrivé à Paris, il a une cabrette, il est chaudronnier là-haut.
Oui, il est chaudronnier, rue de la Roquette.
Et
le soir, comme il est intéressé par la musique, il va dans tous les belles musettes autour, puisque dans Paris, Couronne, il y en a 150 à son époque à peu près.
150 balles.
150 balles. Donc, des balles musettes, donc c'est des balles avec un seul musicien qui joue de la musette. Et la musette, c'est la cabrette dénommée à Paris. Mmh. Donc, il y a 150 balles. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 200 ou 300 professionnels. Mmh. Si on considère que c'est 10% de la masse de joueurs de cabrette, il y a sur Paris 3000 joueurs de cabrette. Quoi.
Et avant-guerre, donc avant la première guerre.
Avant la première guerre, ouais. On est en 1890, là.
Ouais.
Et donc, il écoute. Donc, c'est comme ça qu'il apprend en même temps, parce qu'il entend des grands joueurs professionnels qui sont ceux qui tiennent l'estrade dans les balles musettes. Et petit à petit, il commence à faire des remplacements. Et donc, par cette petite porte entrouverte, il va mettre un coin et puis donner quelques coups de masse pour que ça s'ouvre. Et au début du 20e, en 1902, il achète son premier bal rue de Lappe. Au chalet qui va devenir le bal Bouscat.
Et c'est sa femme qui gère un peu l'endroit avec lui. C'est une histoire de famille. Un peu.
Mais c'est une obligation parce que sinon, s'il faut salarier des gens pour faire et la musique et les entrées, donner à boire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs activités dans un bal musique. Il y a celui qui fait la musique, celui ou celle qui ramasse les jetons.
C'est celui qui monte sur sa tribune là-haut,
oui.
Où on enlève l'échelle et où il.
C'est cela. Parce qu'en fait, pour gagner de la place, les musiciens sont suspendus. Sous le plafond, comme ça les gens peuvent danser dessous et on gagne facilement entre 2 et 4 mètres carrés.
Oui, parce que les lieux ne sont pas si grands que
ça. Les lieux sont relativement petits. Ils sont agrandis par des miroirs. Donc il y a l'activité du musicien, il y a l'activité de la personne qui ramasse les jetons. Parce que pour danser, on achète une poignée de jetons et entre la danse est partagée en deux, comme ça a été le cas là, dans le morceau qu'on vient d'entendre, c'est... le musicien dit « passez la monnaie en place pour la deuxième ». Et donc, les hommes uniquement, hein, parce que les femmes ne paient pas, donnent un jeton auprès d'une personne qui les ramasse et qui est légèrement surélevée pour vérifier que personne ne resquille. Après, de l'autre côté, il y a une petite rangée de lampions. Et quand on passe cette rangée de lampions, on est dans la partie bar. Et là, on peut consommer, on n'est pas obligé de payer. Mais dès qu'on passe de l'autre côté, hop, on est danseur, donc il faut payer la danse. Et donc, il faut quelqu'un au bar également pour... alimenter ces gens qui ont soif en permanence puisqu'ils n'arrêtent pas de danser.
Notre Bouscatel, il a donc son bal, ça marche bien, ce bal il va vite devenir trop petit, il va en acheter un plus grand, non ?
Non, il va acheter des bâtiments qui sont contre ou qui sont derrière de manière à agrandir son bal. En fait, il agrandit surtout en profondeur avec des verrières parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'ateliers dans la rue de Lappe, mais la rue de Lappe, à son époque, à la fin 19e, début 20e, il y a quasiment une vingtaine de balles dans la rue. Mais à côté des
balles... Ça vit beaucoup la nuit dans ce quartier.
Donc comme ça vit beaucoup la nuit, il y a une double activité. Il y a une activité festive par la danse et la musique. Et puis il y a une activité de vente de sexe. Puisque il y a des claques qui sont dispersées entre les balles musettes. Et ça va jouer un rôle important. Parce qu'en fait, les filles qui travaillent... dans les bordels qui sont intercalés entre les balles, entre les passes, rentrent dans les balles musettes, font...
On fait une petite valse.
Accélèrent un petit peu le processus de la danse parce que, comme elles sont professionnelles, les hommes ont envie de danser avec. Donc, les musiciens et les patrons de balles musettes voient que lorsqu'elles sont là, ça fait progresser le chiffre d'affaires. Mais par contre, ces filles constatent également que ces musiciens sont les stars de l'époque. En fait, ce sont les gens qui font la musique de variété de la fin du 19e et du début du 20e. Ce ne sont pas des gens qui font du folklore ou des musiques traditionnelles. Ces gens qui jouent de la cabrette tout seuls dans les balles font de la musique contemporaine pour leur époque. C'est les Johnny Hallyday de la fin du 19e, et ils sont adulés comme des comme des stars aujourd'hui de la variété européenne ou internationale. Et en plus, ils gagnent en un soir ce qu'une personne gagne dans un mois de travail.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez dansé, cette polka, dans vos cuisines, mais ça a quand même beaucoup d'énergie. Henri Monboise à l'accordéon et Lator au banjo. Elle s'intitule La Tripinaire. Alors, Monboise et Buscatel, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, tous les deux.
Mais déjà, ils étaient voisins de Bâle, parce que le Bâle Buscat était dans la rue de Lappe. Et un des deux Bâles de Monboise à Paris était également dans la rue de Lappe, donc ils se connaissaient inévitablement. Mmh. Et en même temps, Monboise est une génération plus récente,
oui,
puisqu'il emporte avec lui l'accordéon. Donc les Italiens ont amené cet instrument. Beaucoup de gens issus d'Auvergne se sont mis à l'accordéon au début, tout début 20e.
Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que ce livre, imposant, je le redis, 450 pages, il y a pour partie, moitié-moitié, il y a donc le roman d'un cabaretaire, Antoine Buscatel, et ensuite, il y a des portraits d'artistes qui amènent à comprendre ce phénomène, ces créateurs du genre musette. Alors, peut-être tous nos auditeurs ne connaissent pas l'histoire de la musique dont fait partie ce genre, le genre musette. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur cette évolution à partir de la cabrette à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, les bals musettes, au départ, sont des bals, comme je le disais tout à l'heure, où il y a un seul musicien, parfois deux, mais où la cabrette est centrale. C'est-à-dire la cornemuse d'Auvergne, ils appellent ça la musette à Paris. Donc, les bals musettes, leur nom vient du nom de l'instrument, puisque c'était l'instrument central. Par contre, après la Première Guerre mondiale, qui a été la plus grande révolution musicale quasiment de tous les temps, puisque le monde entier s'est retrouvé dans un espace comme une région, et que toutes les classes sociales sont arrivées avec leur musique, toutes les traditions qui étaient dans le conflit se sont mélangés, que les gens ont échangé. Et puis surtout, ça a créé un changement de mentalité radical, c'est que quand on a vécu la guerre de 14, on ne peut plus imaginer revivre ce qu'on a vécu par le passé. Ce n'est pas possible. Donc, est né après la guerre de 14, partout en Europe, ce qu'on a appelé le phénomène du musette, c'est-à-dire cette musique d'accordéon que tout le monde ici, tous ceux qui écoutent cette radio connaissent, qui est cette musique plutôt de valse, et puis de valse swing, etc. Ça, c'est un genre musical particulier qui est issu de la pratique d'accordéon et qui est né de ce bouleversement des mentalités qu'a créé la guerre de 14-18.
On va passer complètement musicalement à autre chose parce que je pense que c'est bien aussi que les auditeurs connaissent les pratiques artistiques de l'auteur de cet ouvrage. Et alors personnellement, et c'est bien de faire une émission de radio parce qu'on fait des choix très égoïstes et on se fait plaisir en réécoutant des choses qu'on aime bien. Il y a un album qui est absolument superbe, Monsieur Ricro, que vous avez commis avec Louis Clavis, Le Partage des Eaux, et je vous propose d'écouter la San Gervase. La cabrette autrement, André Ricro à la cabrette, Louis Clavis à la clarinette. Alors, vous le savez tous maintenant, vous avez l'habitude, je ne peux pas tout vous annoncer, mais vous avez le plaisir de nous appeler à l'AMTA qui est à votre disposition au 04 73 64 6000 ou vous pouvez aller sur notre site internet site www.amta.fr. Et là, vous aurez tous les renseignements pour les bals, les concerts, les spectacles, les publications à vendre comme Bouscatel, le roi des cabretailles. Juste pour l'agenda, je vais vous donner un rendez-vous parce que celui-ci, il est un petit peu particulier. Il est pour les enfants. Vous savez bien, durant ces périodes de Noël, on a tendance à penser beaucoup aux enfants et c'est une très bonne chose. Donc, vous pouvez les emmener au bal samedi 15 décembre de 14h30 à 17h à la salle polyvalente de Pauillac. C'est dans le Cantal et c'est avec les musiciens et danseurs du Centre départemental des musiques et danses traditionnelles du Cantal. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur notre site, comme je vous le disais tout à l'heure. André, il y a quand même quelque chose qui est très très important aussi dans cet ouvrage, c'est l'iconographie, très abondante et originale et inédite pour la plupart.
Tout est dit.
Ah non, non, tout n'est pas dit, non. Parce qu'il y a à peu près 300 illustrations, si j'ai bien regardé.
Au moins, oui.
Comment on fait pour trouver tout ça?
Vous remontez en arrière de 40 ans. Ouais. Vous vous intéressez à un sujet, vous gardez quasiment tout sur l'objet, vous les classez, vous les numérisez, vous les nommez, et puis vous avez un fonds documentaire de 3, 4 ou 5 000 documents. Et à l'intérieur de ces documents, vous choisissez ceux qui sont les plus pertinents.
Et puis je suppose aussi que c'est tout un réseau, tout un maillage, tous des liens d'amitié avec des tas de gens partout qui ont un peu la même passion.
Mais ça, c'est important de dire ça, parce qu'en fait, réaliser un ouvrage de ce type, c'est pas possible de le réaliser tout seul. C'est un travail d'équipe et de gens passionnés autour d'un même objet. Et nombreux sont ceux qui ont collaboré directement ou indirectement à la réalisation de ce livre. D'ailleurs, qui ferait un cadeau magnifique pour Noël.
Ah ben oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc, pour toutes les personnes intéressées, évidemment, vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes librairies ou nous téléphoner à l'AMTA et on vous dira vraiment où trouver tout ça. Bon, merci d'être venu nous en parler parce que je pense qu'on pourrait faire une troisième ou une quatrième émission, mais on va se calmer un peu pour le moment. Mais vous reviendrez.
Ben, quand vous voulez, dès que vous m'invitez, j'accours.
Bon, eh bien, pas de problème.
Parce que parler à 2 millions d'individus, c'est quand même, c'est pas souvent.
Ah ben oui, puis de l'Auvergne et dans toutes les maisons. Et à l'heure de l'apéro, c'est super. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous allons nous quitter avec un autre titre du roi des cabretailles, Antoine Bouscatel, La bourreille sur le conte des Dindounes. C'est difficile à dire ça, André Rico.
Les contes d'Indounes.
Ah voilà, ça y est, c'est mieux.
C'est le chant de Donne.
Bon dimanche. Au-dessus d'Aurillac.